Hector Malo, sans famille, deuxième partie, chapitre 1, en avant. En avant. Le monde était ouvert devant moi et je pouvais tourner mes pas du côté du nord ou du sud, de l'ouest ou de l'est, selon mon caprice. Je n'étais qu'un enfant et j'étais mon maître. Hélas, c'était précisément là ce qu'il y avait de triste dans ma position. Combien d'enfants se disent tout bas « Ah, si je pouvais faire ce qu'il me plaît, si j'étais libre, si j'étais mon maître !» Combien aspirent avec impatience au jour bienheureux où ils auront cette liberté de faire des sottises. Moi, je me disais, ah, si j'avais quelqu'un pour me conseiller, pour me diriger. C'est qu'entre ces enfants et moi, il y avait une différence terrible. Si ces enfants font des sottises, ils ont derrière eux quelqu'un pour leur tendre la main quand ils tombent ou pour les ramasser quand ils sont à terre, tandis que moi, je n'avais personne. Si je tombais, je devais aller jusqu'au bas et une fois là me ramasser tout seul si je n'étais pas cassé. Et j'avais assez d'expérience pour comprendre que je pouvais très bien me casser. Malgré ma jeunesse, j'avais été assez éprouvé par le malheur pour être plus circonspect et plus prudent que ne le sont ordinairement les enfants de mon âge. C'était un avantage que j'avais payé cher. Aussi, avant de me lancer sur la route qui m'était ouverte, je voulus aller voir celui qui, en ces dernières années, avait été un père pour moi. Si la tante Catherine ne m'avait pas pris avec les enfants pour aller lui dire adieu, je pouvais bien, je devais bien, tout seul, aller l'embrasser. Il y a des choses tristes en ce monde et dont la vue porte à des réflexions lugubres. Je n'en connais pas de plus laide et de plus triste qu'une porte de prison. Je m'arrêtai un moment avant d'oser entrer dans la prison de Clichy, comme si j'avais peur qu'on ne m'y gardât et que la porte, cette affreuse porte, refermée sur moi, ne se rouvrit plus. On me fit entrer dans un parloir où il n'y avait ni grille ni barreau, comme je croyais, et bientôt après, le père arriva sans être chargé de chaîne. « Je t'attendais, mon petit Rémi, me dit-il, et j'ai grondé Catherine de ne pas t'avoir amenée avec les enfants. » Nous étions seuls dans le parloir, assis sur un banc à côté l'un de l'autre. Je me jetai dans ses bras. « Je ne te dirai plus qu'un mot, dit le père, à la garde de Dieu, mon cher garçon. » Et tous deux nous restâmes pendant quelques instants silencieux, mais le temps avait marché et le moment de nous séparer était venu. Tout d'un coup, le père fouilla dans la poche de son gilet et en retira une grosse montre en argent qui était retenue dans une boutonnière par une petite lanière en cuir. Il ne sera pas dit que nous nous serons séparés sans que tu emportes un souvenir de moi. Voici ma montre, je te la donne. Oh, elle n'a pas grande valeur, car tu comprends que si elle en avait, j'aurais été obligée de la vendre. Elle ne marche pas non plus très bien et elle a besoin de temps en temps d'un bon coup de pouce. Mais enfin, c'est tout ce que je possède présentement et c'est pour cela que je te la donne. » Disant cela, il me la mit dans la main. Puis, comme je voulais me défendre d'accepter un si beau cadeau, il ajouta tristement « Tu comprends que je n'ai pas besoin de savoir l'heure ici. Le temps n'est que trop long. Je mourrai à le compter. Adieu, mon petit Rémi. Embrasse-moi encore un coup. Tu es un brave garçon. Souviens-toi qu'il faut l'être toujours. » Et je crois qu'il me prit par la main pour me conduire à la porte de sortie. Mais ce qui se passa dans ce dernier moment, ce qui se dit entre nous, je n'en ai pas gardé souvenir. J'étais trop troublée, trop émue. Quand je pense à cette séparation, ce que je retrouve dans ma mémoire, c'est le sentiment de stupidité et d'anéantissement qui me prit tout entier quand je fus dans la rue. Je crois que je restais longtemps, très longtemps dans la rue, devant la porte de la prison, sans pouvoir me décider à tourner mes pas à droite ou à gauche, et j'y serais peut-être demeurée jusqu'à la nuit si ma main m'avait tout à coup, par hasard, rencontré dans ma poche un objet rond et dur. Machinalement et sans trop savoir ce que je faisais, je le palpais. Ma montre. Capi me regarda, et comme j'étais trop troublée pour le comprendre, après quelques secondes d'attente, il se dressa contre moi et posa sa patte contre ma poche, celle où était ma montre. Il voulait savoir l'heure pour la dire à l'honorable société, comme au temps où il travaillait avec Vitalis. Je la lui montrai. Il la regarda assez longtemps, comme s'il cherchait à se rappeler, puis se mettant à frétiller de la queue, il aboya 12 fois. Il n'avait pas oublié. Ah, comme nous allions gagner de l'argent avec notre montre. C'était un tour de plus sur lequel je n'avais pas compté. Comme tout cela se passait dans la rue vis-à-vis de la porte de la prison, il y avait des gens qui nous regardaient curieusement et même qui s'arrêtaient. Si j'avais osé, j'aurais donné une représentation tout de suite, mais la peur des agents de ville m'en empêcha. D'ailleurs, il était midi, c'était le moment de me mettre en route. En avant! Je donnai un dernier regard, un dernier adieu à la prison, derrière les murs de laquelle le pauvre père allait rester enfermé, tandis que moi j'irais librement où je voudrais, et nous partîmes. L'objet qui m'était le plus utile pour mon métier, c'était une carte de France. Je savais qu'on en vendait sur les quais, et j'avais décidé que j'en achèterais une. Je me dirigeais donc vers les quais. Il me fallut longtemps pour trouver une carte, du moins comme j'en voulais une, c'est-à-dire collée sur toile, se pliant et ne coûtant pas plus de 20 sous, ce qui pour moi était une grosse somme. Enfin j'en trouvai une, si jaunie que le marchand me la fit payer que 75 centimes. Maintenant je pouvais sortir de Paris, ce que je me décidais à faire au plus vite. J'avais 2 routes à prendre, celle de Fontainebleau par la barrière d'Italie, ou bien celle d'Orléans par Montrouge. En somme, l'une m'était tout aussi indifférente que l'autre, et le hasard fit que je choisis celle de Fontainebleau. Comme je suivais la rue Mouffetard, dont le nom que je venais de lire sur une plaque bleue m'avait rappelé tout un monde de souvenirs, Garofoli, Mattia, Ricardo, la marmite avec son couvercle fermé au cadenas, le fouet aux lanières de cuir, et enfin Vitalis, mon pauvre et bon maître, qui était mort pour ne pas m'avoir loué au padrone de la rue de l'Oursine, il me sembla, en arrivant à l'église Saint-Médard, reconnaître dans un enfant appuyé contre le mur de l'église le petit Mattia. C'était bien la même grosse tête, les mêmes yeux mouillés, les mêmes lèvres parlantes, le même air doux et résigné, la même tournure comique, mais chose étrange, si c'était lui, il n'avait pas grandi. Je m'approchai pour le mieux examiner. Il n'y avait pas à en douter, c'était lui. Il me reconnut aussi, car son pâle visage s'éclaira d'un sourire. « C'est vous, dit-il, qui êtes venu chez Garofoli avec le vieux à barbe blanche avant que j'entre à l'hôpital. Oh, comme j'avais mal à la tête ce jour-là. Et Garofoli est toujours votre maître ?» Il regarda autour de lui avant de répondre. Alors, baissant la voix, Garofoli est en prison. On l'a arrêté parce qu'il a fait mourir Orlando pour l'avoir trop battu. Cela me fit plaisir de savoir Garofoli en prison, et pour la première fois, j'eus la pensée que les prisons, qui m'inspiraient tant d'horreur, pouvaient être utiles. « Et les enfants ?» dis-je. « Oh, je ne sais pas. Je n'étais pas là quand Garofoli a été arrêté. Quand je suis sortie de l'hôpital, Garofoli, voyant que je n'étais pas bon à battre, sans que ça me rende malade, a voulu se débarrasser de moi, et il m'a loué pour 2 ans, payé d'avance, au cirque Gasso. Vous connaissez le cirque Gasso ? Non ? Eh bien, ce n'est pas un grand, grand cirque, mais c'est pourtant un cirque. Ils avaient besoin d'un enfant pour la dislocation, et Garofoli me loua au père Gasso. Je suis restée avec lui jusqu'à lundi dernier. Et puis on m'a renvoyé parce que j'ai la tête trop grosse maintenant pour entrer dans la boîte et aussi trop sensible. Alors je suis venue de Gisors où est le cirque pour rejoindre Garofoli. Mais je n'ai trouvé personne, la maison était fermée et un voisin m'a raconté ce que je viens de vous dire. Garofoli est en prison. Alors je suis venue là, ne sachant où aller et ne sachant que faire. Pourquoi n'êtes-vous pas retournée à Gisors ? Parce que le jour où je partais de Gisors pour venir à Paris à pied, le cirque partait pour Rouen. Et comment voulez-vous que j'aille à Rouen ? C'est trop loin et je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas mangé depuis hier midi. Je n'étais pas riche, mais je l'étais assez pour ne pas laisser ce pauvre enfant mourir de faim. Comme j'aurais béni celui qui m'aurait tendu un morceau de pain quand j'irais aux environs de Toulouse, affamé comme Mathias l'était en ce moment. « Restez là, lui dis-je. » Et je courus chez un boulanger dont la boutique faisait le coin de la rue. Bientôt, je revins avec une miche de pain que je lui offris. Il se jeta dessus et la dévora. « Et maintenant, lui dis-je, que voulez-vous faire ? » ?»« Je ne sais pas. Il faut faire quelque chose. » J'allais tâcher de vendre mon violon quand vous m'avez parlé, et je l'aurais déjà vendu si cela ne me faisait pas chagrin de m'en séparer. Mon violon, c'est ma joie et ma consolation. Quand je suis trop triste, je cherche un endroit où je serai seule, et je joue pour moi. Alors je vois toutes sortes de belles choses dans le ciel. C'est bien plus beau que dans les rêves, ça se suit. Alors pourquoi ne jouez-vous pas du violon dans les rues ? J'en ai joué, mais personne ne m'a donné. Je savais ce que c'était que de jouer sans que personne ne mît la main à la poche. « Et vous ?» demanda Mathia. « Que faites-vous maintenant ?» Je ne sais quel sentiment de vantardise enfantine m'inspira. « Mais je suis chef de troupe, » dis-je. En réalité, cela était vrai, puisque j'avais une troupe composée de capis. Mais cette vérité frisait de près la fausseté. « Ah, oh, si vous vouliez, » dit Mathia. « Quoi ? M'enrôler dans votre troupe ?» Alors la sincérité me revint. « Mais voilà toute ma troupe, » dis-je en montrant le capi. « Eh bien, qu'importe, nous serons deux. Oh, je vous en prie, ne m'abandonnez pas. Que voulez-vous que je devienne ? Il ne me reste qu'à mourir de faim. » Mourir de faim. Tous ceux qui entendent ce cri ne le comprennent pas de la même manière et ne le perçoivent pas à la même place. Moi, ce fut au cœur qu'il me résonna. Je savais ce que c'était que de mourir de faim. « Allez, venez avec moi, lui dis-je, mais pas comme domestique, comme camarade. » Et remontant la bretelle de ma harpe sur mon épaule, « En avant, lui dis-je. » Au bout d'un quart d'heure, nous sortions de Paris. Les halles du mois de mars avaient séché la route et sur la terre durcie, on marchait facilement. L'air était doux, le soleil d'avril brillait dans un ciel bleu sans nuages. Près de moi, Mathia marchait sans rien dire, réfléchissant sans doute. Et moi, je ne disais rien non plus pour ne pas le déranger et aussi parce que j'avais moi-même à réfléchir. Où allions-nous ainsi de ce pas délibéré ? À vrai dire, je ne le savais pas trop. Et même, je ne le savais pas du tout, devant nous. Mais après, j'avais promis à Lise de voir ses frères, et Étiennette avant elle. Mais je n'avais pas pris d'engagement à propos de celui que je devais voir le premier. Benjamin, Alexis ou Étiennette. Je pouvais commencer par l'un ou par l'autre, à mon choix. C'est-à-dire par les Cévennes, la Charente ou la Picardie. De ce que j'étais sortie par le sud de Paris, il résultait nécessairement que ce ne serait pas Benjamin qui aurait ma première visite, mais il me restait le choix entre Alexis et Étiennette. J'avais eu une raison qui m'avait décidé à me diriger tout d'abord vers le sud et non vers le nord. C'était le désir de voir Mère Barberin. Si depuis longtemps je n'ai pas parlé d'elle, il ne faut pas en conclure que je l'avais oubliée comme un ingrat. De même, il ne faut pas conclure non plus que j'étais un ingrat de ce que je ne lui avais pas écrit depuis que j'étais séparée d'elle. Combien de fois j'avais eu cette pensée de lui écrire pour lui dire « Je pense à toi et je t'aime toujours de tout mon cœur. » Mais d'une part, elle ne savait pas lire et de l'autre, la peur de Barberin et une peur horrible m'avait retenue. Si Barberin me retrouvait au moyen de ma lettre, s'il me reprenait, si de nouveau il me vendait un autre Vitalis qui ne serait pas Vitalis, sans doute il avait le droit de faire tout cela. Et à cette pensée, j'aimais mieux m'exposer à être accusée d'ingratitude par Mère Barberin plutôt que de courir la chance de retomber sous l'autorité de Barberin, soit qu'il usât de cette autorité pour me vendre, soit qu'il voulût me faire travailler sous ses ordres. J'aurais mieux aimé mourir de faim, plutôt que d'affronter un pareil danger. Mais si je n'avais pas osé écrire à Mère Barberin, il me semblait qu'étant libre d'aller où je voulais, je pouvais tenter de la voir. Et même, depuis que j'avais engagé Mathia dans ma troupe, je me disais que cela pouvait être facile. J'envoyais Mathia en avant, tandis que je restais prudemment en arrière. Il entrait chez Mère Barberin et la faisait causer sous un prétexte quelconque. Si elle était seule, il lui racontait la vérité, venait m'avertir, et je rentrais dans la maison où s'était passée mon enfance pour me jeter dans les bras de ma mère nourrice. Si au contraire Barberin était au pays, Mathia demandait à ma mère Barberin de se rendre à un endroit désigné, et là, je l'embrassais. C'était ce plan que je bâtissais tout en marchant, et cela me rendait silencieux, car ce n'était pas trop de toute mon attention, de toute mon implication, pour examiner une question d'une telle importance. En effet, je n'avais pas seulement à voir si je pouvais aller embrasser Mère Barberin, mais j'avais encore à chercher si, sur notre route, nous trouverions des villes ou des villages dans lesquels nous aurions chance de faire des recettes. Pour cela, le mieux était de consulter ma carte. Justement, nous étions en ce moment en pleine campagne et nous pouvions très bien faire une halte sur un tas de cailloux, sans crainte d'être dérangés. « Si vous voulez, » dis-je à Mathia, « nous allons nous reposer un peu. Voulez-vous que nous parlions ? Vous avez quelque chose à me dire ? Je voudrais vous prier de me dire « tu ». Je veux bien, nous nous dirons « tu ». Vous, oui, mais moi, non. Toi, comme moi, je te l'ordonne. Et si tu ne m'obéis pas, je tape. Bon, tape, mais pas sur la tête. » Et il se mit à rire d'un bon rire franc et doux, en montrant toutes ses dents, dont la blancheur éclatait au milieu de son visage hâlé. Nous étions assis, et dans mon sac, j'avais pris ma carte, que j'étalais sur l'herbe. Je fus assez longtemps à m'orienter. Mais me souvenant de la façon dont s'y prenait Vitalis, je finis par tracer mon itinéraire. Corbeil, Fontainebleau, Montargis, Gien, Bourges, Saint-Amand, Montluçon. Il était donc possible d'aller à Chavagnon, et si nous avions un peu de chance, il était possible de ne pas mourir de faim en route. Comme j'avais débouclé mon sac, l'idée me vint de passer l'inspection de ce qu'il contenait, étant bien aise d'ailleurs de montrer mes richesses à Mathia, et j'étalai tout sur l'herbe. J'avais 3 chemises en toile, 3 paires de bas, 5 mouchoirs, le tout en très bon état, et une paire de souliers un peu usés. Mathia fut ébloui. « Et toi, qu'as-tu ? » lui demandai-je. « J'ai mon violon, et ce que je porte sur moi ?» Depuis que j'avais repris ma peau de mouton et ma harpe, il y avait une chose qui me gênait beaucoup. C'était mon pantalon. Il me semblait qu'un artiste ne devait pas porter un pantalon long. Pour paraître en public, il fallait des culottes courtes avec des bas sur lesquels s'entrecroisaient des rubans de couleur. Des pantalons, c'était bon pour un jardinier, même maintenant que j'étais un artiste. « Pendant que je vais arranger mon pantalon, » dis-je à Mathia, « tu devrais bien me montrer comment tu joues du violon. »« Oh, je veux bien !» Et prenant son violon, il se mit à jouer. Pendant ce temps, j'enfonçais bravement la pointe de mes ciseaux dans mon pantalon un peu au-dessus du genou et je me mis à couper le drap. Tout d'abord, j'avais écouté Mathia en coupant mon pantalon. Mais bientôt, je cessai de faire fonctionner mes ciseaux et je fus tout oreille. Mattia jouait presque aussi bien que Vitalis. Et qui donc t'a appris le violon ? Lui dis-je en l'applaudissant. Personne, un peu tout le monde, et surtout moi seule en travaillant. Et qui t'a enseigné la musique ? Je ne la sais pas, je joue ce que j'ai entendu jouer. On n'est pas artiste sans avoir un peu d'amour-propre. Je voulus montrer à Mattia que moi aussi j'étais musicien. Je pris ma harpe et tout de suite, pour frapper un grand coup, je lui chantais ma fameuse chanson.
Fenesta vacia e patrona crudele, quanta sospire mai è fatto iettare. Mar de sto core, comma na cannela, bella quando te sento a nomenare.
Et alors, comme cela se devait entre artistes, Mattia me paya les compliments que je venais de lui adresser par ses applaudissements. Il avait un grand talent, j'avais un grand talent. Nous étions dignes l'un de l'autre. Mais nous ne pouvions pas rester ainsi à nous féliciter l'un l'autre. Il fallait, après avoir fait de la musique pour nous, pour notre plaisir, en faire pour notre souper et pour notre coucher. Je bouclais mon sac et Mattia, à son tour, le mit sur ses épaules. En avance sur la route poudreuse. Maintenant, il fallait s'arrêter au premier village qui se trouverait sur notre route et donner une représentation. Début de la troupe Rémy. Comme nous arrivions à un village qui se trouve après Villejuif, nous préparant à chercher une place convenable pour notre représentation, nous passâmes devant la grande porte d'une ferme dont la cour était pleine de gens endimanchés qui portaient tous des bouquets noués avec des flous de rubans et attachés pour les hommes à la boutonnière de leur habit, pour les femmes à leur corsage. Il ne fallait pas être bien habile pour deviner que c'était une noce. L'idée me vint que ces gens seraient peut-être satisfaits d'avoir des musiciens pour les faire danser. Et aussitôt j'entrai dans la cour suivie de Mattia et de Capi. Puis, mon feutre à la main et avec un grand salut, le salut noble de Vitalis, je fis ma proposition à la première personne que je trouvais sur mon passage. C'était un gros garçon dont la figure rouge comme brique était encadrée dans un grand col raide qui lui sciait les oreilles. Il avait l'air bon enfant et placide. Il ne me répondit pas, mais se tournant tout d'une pièce vers les gens de la noce, car sa redingote en beau drap luisant le gênait évidemment aux entournures, il fourra deux de ses doigts dans sa bouche et tira de cet instrument un si formidable coup de sifflet que Capi en fut effrayé. « Ohé, les autres » cria-t-il. « Quoi que vous pensez d'un petit air de musique ? V'là des artistes qui nous arrivent !» Oui, la musique, crièrent des voix d'hommes et de femmes. En place pour le quadrille. Et en quelques minutes, les groupes de danseurs se formèrent au milieu de la cour, ce qui fit fuir les volailles épouvantées. As-tu joué des quadrilles ? Demandai-je à Mattia en italien à voix basse, car j'étais assez inquiet. Oui, et il m'en indiqua un sur son violon. Le hasard permit que je le connusse, nous étions sauvés. On avait sorti une charrette de dessous un hangar, on la posa sur ses chambrières et on nous fit monter dedans. Bien que nous n'eussions jamais joué ensemble, Mattia et moi, nous ne nous tirâmes pas trop mal de notre quadrille. Il est vrai que nous jouions pour des oreilles qui n'étaient heureusement ni délicates ni difficiles. « Un de vous s'est-il joué du cornet à piston ?» nous demanda le gros Rougeau. « Oui, moi, » dit Mattia, « mais je n'en ai pas. Je vais aller vous en chercher un parce que le violon, c'est joli, mais c'est fadasse. »« Tu joues donc aussi du cornet à piston ?» demandai-je à Mattia en parlant toujours italien. « Et de la trompette à coulisses, et de la flûte, et de tout ce qui se joue ?» Décidément, il était précieux, Mattia. Bientôt, le cornet à piston fut apporté et nous recommençâmes à jouer des quadrilles, des polkas, des valses, surtout des quadrilles. Nous jouâmes ainsi jusqu'à la nuit sans que les danseurs nous laissassent respirer. Cela n'était pas bien grave pour moi, mais cela était beaucoup plus pour Mathias. Chargé de la partie pénible et fatigué d'ailleurs par son voyage et par les privations, je le voyais de temps en temps pâlir comme s'il allait se trouver mal. Cependant, il jouait toujours, soufflant tant qu'il pouvait dans son embouchure. Heureusement, je ne fus pas seule à m'apercevoir de sa pâleur. La mariée la remarqua aussi. « Assez !» dit-elle. « Le petit n'en peut plus. Maintenant, la main à la bourse pour les musiciens. » « Si vous vouliez, dis-je en sautant en bas de la voiture, je ferais faire la quête par notre caissier. » Et je jetai mon chapeau à Capi qui le prit dans sa gueule. On applaudit beaucoup la grâce avec laquelle il savait saluer lorsqu'on lui avait donné. Mais ce qui valait mieux pour nous, on lui donna beaucoup. Comme je le suivais, je voyais les pièces blanches tomber dans le chapeau. Le marié mit la dernière et ce fut une pièce de 5 francs. Quelle fortune! Ce ne fut pas tout. On nous invita à manger à la cuisine et on nous donna à coucher dans une grange. Le lendemain, quand nous quittâmes cette maison hospitalière, nous avions un capital de 28 francs. « C'est à toi que nous les devons, mon petit Mathia, » dis-je à mon camarade. « Tout seul, je n'aurais pas formé un orchestre. » Avec 28 francs dans notre poche, nous étions des grands seigneurs. Et lorsque nous arrivâmes à Corbeil, je pus, sans trop d'imprudence, me livrer à quelques acquisitions que je jugeais indispensables. D'abord, un cornet à piston, qui me coûta 3 francs chez un marchand de ferraille. Pour cette somme, il n'était ni neuf ni beau, mais enfin, récuré et soigné, il ferait notre affaire. Puis, ensuite, des rubans rouges pour nos bas. Et enfin, un vieux sac de soldat pour Mathia, car il était moins fatigant d'avoir toujours sur les épaules un sac léger que d'en avoir de temps en temps un lourd. Nous nous partagerions également ce que nous portions avec nous et nous serions plus alertes. Quand nous quittâmes Corbeil, nous étions vraiment en bon état. Nous avions toutes nos acquisitions payées, 30 francs dans notre bourse, car nos représentations avaient été fructueuses. Notre répertoire était réglé de telle sorte que nous pouvions rester plusieurs jours dans le même pays sans trop nous répéter. Enfin, nous nous entendions si bien, Mathia et moi, que nous étions déjà ensemble comme deux frères. Après avoir quitté Corbeil, nous nous étions dirigés sur Montargis, en route pour aller chez Mère Barberin. Aller chez Mère Barberin pour l'embrasser, c'était m'acquitter de ma dette de reconnaissance envers elle. Mais c'était m'en acquitter bien petitement et à trop bon marché. Si je lui portais quelque chose, maintenant que j'étais riche, je lui devais un cadeau. Quel cadeau lui faire? Je ne cherchais pas longtemps. Il y en avait un qui plus que tout la rendrait heureuse, non seulement dans l'heure présente, mais pour toute sa vieillesse. Une vache qui remplacerait la pauvre Roussette. Quelle joie pour Mère Barberin! Si je pouvais lui donner une vache, et aussi quelle joie pour moi. Avant d'arriver à Chavanon, j'achetai une vache, et Mathia, la conduisant par la longe, la faisait entrer dans la cour de Mère Barberin. Bien entendu, Barberin n'était pas là. « Madame Barberin, disait Mathia, voici une vache que je vous amène. »« Une vache? Vous vous trompez, mon garçon !» Et elle soupirait. « Non, madame, vous êtes bien madame Barberin de Chavanon. Eh bien, c'est chez madame Barberin que le prince, comme dans les contes de fées, m'a dit de conduire cette vache qu'il vous offre. »« Quel prince ?» Alors, je paraissais, je me jetais dans les bras de mère Barberin, et après nous être bien embrassés, nous faisions des crêpes et des beignets qui étaient mangés par nous trois, et non par Barberin, comme en ce jour de Mardi Gras, où il était revenu pour renverser notre poêle et mettre notre beurre dans sa soupe à l'oignon. Quel beau rêve! Seulement, pour le réaliser, il fallait pouvoir acheter une vache. Combien cela coûtait-il, une vache? Je n'en avais aucune idée. Cher, sans doute, très cher, mais encore. Ce que je voulais, ce n'était pas une trop grande, une trop grosse vache. D'abord, parce que plus les vaches sont grosses, plus leur prix est élevé. Puis parce que plus les vaches sont grandes, plus plus il leur faut de la nourriture. Et je ne voulais pas que mon cadeau devînt une cause d'embarras pour Mère Barberin. L'essentiel pour le moment, c'était donc de connaître le prix des vaches, ou plutôt d'une vache telle que j'en voulais une. Heureusement, cela n'était pas difficile pour moi, et notre vie sur les grands chemins, dans nos soirées à l'auberge, nous nous trouvions en relation avec des conducteurs et des marchands de bestiaux. Il était donc bien simple de leur demander le prix des vaches. Mais la première fois que j'adressais ma question à un bouvier, dont l'air brave homme m'avait tout d'abord attiré, on me répondit en me riant au nez. Le bouvier se renversa ensuite sur sa chaise, en donnant de temps en temps de formidables coups de poing sur la table. Puis il appela l'aubergiste. « Savez-vous ce que me demande ce petit musicien? Combien coûte une vache? Pas trop grande, pas trop grosse, enfin une bonne vache. Faut-il qu'elle soit savante ?» Après avoir épuisé toutes ses plaisanteries, déployé suffisamment son esprit, il voulut bien me répondre sérieusement et même entrer en discussion avec moi. Il avait justement mon affaire, une vache douce, donnant beaucoup de lait, un lait qui était une crème et ne mangeant presque pas. Si je voulais lui allonger 15 pistoles sur la table, autrement dit 50 écus, la vache était à moi. 15 pistoles ou 50 écus, cela faisait 150 francs, et j'étais loin d'avoir une si grosse somme. Était-il impossible de la gagner? Il me sembla que non, et que si la chance de nos premiers jours nous accompagnait, je pourrais, sou à sou, réunir ces 150 francs. Seulement, il faudrait du temps. Alors, une nouvelle idée germa dans mon cerveau. Si, au lieu d'aller tout de suite à Chavanon, nous allions d'abord à Vars, cela nous donnerait ce temps qui nous manquerait en suivant la route directe. Il fallait donc aller à Vars tout d'abord et ne voir Mère Barberin qu'au retour. Assurément alors, j'aurais mes 150 francs et nous pourrions jouer ma féerie, la vache du prince. Le matin, je fis part de mon idée à Mathia qui ne manifesta aucune opposition. « Allons à Vars, » dit-il. « Les mines, c'est peut-être curieux. Je serais bien aise d'en voir une. »